Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de conduite du changement entre structure et individu. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Shaima Najim, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Shkhbark lala Shaima.
Ça va très bien, Abdullah. Et vous?
Ça va. Un plaisir de vous avoir et un plaisir d'échanger avec vous. Alors, lala Shaima, j'ai envie de savoir, quand on évoque pour vous, là, quand vous évoquez la notion de transformation et de changement, qu'est-ce que ça reflète pour vous, en fait?
Alors, en fait, il est vrai qu'il n'est pas évident de cerner le concept de conduite du changement avec une définition unique,
oui.
Parce que c'est un concept qui est très vaste, qui est très flexible et qui s'adapte à chaque contexte particulier. Et le change, il se définit souvent à travers son impact et avec aussi la manière dont il est ressenti, vécu par les individus, etc. Ce qui fait du change une aventure qui est avant tout humaine. Et donc l'humain, c'est ce qu'il y a de plus complexe et de plus fascinant en même temps. Donc la conduite du changement en général, ça se révèle avant tout comme un mindset, un état d'esprit, et c'est cette approche qui invite à percevoir le changement comme une opportunité et savoir transformer les différents défis en opportunités également qui peuvent être des opportunités de croissance, d'évolution. En tout cas, l'essentiel, c'est d'en tirer une expérience et d'apprendre à travers ce changement-là.
Alors ça, c'est au niveau professionnel. Mais pour la femme que vous êtes, pour l'humain que vous êtes, est-ce que vous êtes à l'aise avec les changements?
Alors oui, en fait, la vie privée et la vie personnelle sont étroitement liées et sont naturellement liées. Donc quand on regarde nos vies, il est facile de croire que le travail et la vie professionnels sont deux mondes séparés, mais ils sont intimement liés. Donc, quand j'ai parlé du change de façon professionnelle, c'est aussi d'une façon personnelle aussi. Donc, ce qu'on vit au bureau, il influence nos habitudes, notre manière de réfléchir et même notre confiance en nous. Et donc, ce qu'on vit chez nous, nos choix personnels, nos routines, nos relations, ça nourrit notre créativité, notre énergie et notre façon de prendre des décisions qui peuvent être à la fois personnelles ou personnelles. Donc la conduite du changement pour moi, c'est une posture qu'il faut appliquer à mon sens dans tous les aspects de la vie, personnelle comme professionnelle. Et c'est dans cette perspective déjà que j'ai commencé à m'intéresser à la conduite du changement.
Oui.
Donc c'est pas une compétence pour gérer des projets ou des outils de travail classiques dans le monde professionnel, mais c'est une posture dans la vie. Elle nous aide à naviguer dans les différentes transitions, que ce soit professionnelle ou personnelle à la fois.
Mmh.
Et puis dans la vie personnelle, comme professionnelle aussi, on fait face à de la résistance au changement, à des changements dans le quotidien, que ce soit dans de nouvelles étapes dans la vie, des déménagements, des retours, des changements dans toutes les étapes de la vie, quoi.
Exactement. Alors, en même temps, vous avez beaucoup évolué professionnellement, donc à travers différentes missions, etc. Et donc, on va en quelque sorte dire que votre capacité ou là, votre leadership du changement et votre expertise du changement s'est aiguisée. Est-ce qu'en parallèle aussi, dans la vie professionnelle, toutes ces compétences acquises dans la gestion dans les transformations, gestion du changement au sein des entreprises, au sein du milieu professionnel, finalement, vous avez emporté avec vous ce savoir-faire pour vous adapter encore plus facilement à vos changements de vie à vous?
Bien sûr. Donc, en fait, le changement, en général, il s'opère avec trois niveaux. Donc, si vous prenez du recul avec moi, vous allez vous en apercevoir. Ça se passe par trois étapes, quel que soit le contexte. Le premier, c'est vraiment d'adhérer et de donner du sens.
Mmh.
C'est de comprendre pourquoi on est en train de faire ça. C'est, tant que ça n'a pas de sens pour nous, forcément, on se sent perdu. Voilà, on n'adhère pas. Donc, c'est cette adhésion qui reste l'étape une dans tout projet de vie, qu'il soit professionnel, personnel, que ce soit vraiment partout dans tous les aspects de la vie. Donc, une fois qu'on a compris le pourquoi on est en train de faire ça et on a adhéré à ce changement-là, et je ne suis pas en train de vous dire que même moi, en étant en faisant du change durant plusieurs années de ma vie, c'est pas tout le temps réfléchi et c'est pas tout le temps qu'on l'applique, mais avec du recul, on est obligé de passer par cette étape, et avec du recul, on se rend compte qu'on est passé par cette étape avant tout changement. Et donc du coup, une fois qu'on a compris pourquoi, et là, on commence à s'investir naturellement. Et du coup, dans le travail, donc ça signifie d'accompagner, d'ajuster, de co-construire, etc. Et même dans la vraie vie, c'est un peu similaire. Par exemple, quand on veut se mettre au sport, dès qu'on comprend que c'est vraiment pour être en bonne santé et que c'est pour être bien dans sa peau, etc., on commence à s'engager naturellement. Pour nous, ça devient plus une corvée d'aller au sport, on commence à prendre vraiment plaisir, etc. Et donc, du coup, on crée nous-mêmes ces conditions-là pour réussir. Et donc, du coup, ça signifie d'adopter un nouveau mindset, de nouvelles habitudes, on prend des décisions conscientes et on accepte de sortir de notre zone de confort. Et puis, le troisième niveau qui est tout aussi important, c'est que ça devient naturel, ça devient intégré, ça devient une posture ou bien ça devient un changement qu'on peut reproduire ailleurs. Donc au bureau, les équipes ou bien les personnes impactées par ce changement deviennent actrices de transformation. Et puis dans la vie privée, ce qui semblait difficile devient une habitude et une manière de fonctionner. Et si je reviens à l'exemple du sport, ça devient une discipline qui s'applique naturellement sans résistance. Voilà,
c'est ça. Mais alors moi, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué quand c'est l'individu seul, parce que finalement, c'est lui qui doit enclencher le changement. Mais en même temps, la résistance vient de lui-même. En fait, c'est comme si dans une seule personne, tout le mécanisme devait être géré par cette personne qui a envie d'avancer, mais en même temps qui fait de la résistance. J'ai l'impression que c'est encore plus compliqué pour l'être humain que pour la structure. Et c'est vrai que la structure est faite d'êtres humains, mais c'est différent en fait que quand on est seul à se gérer, à devoir gérer son propre changement.
En fait, pour commencer, la résistance n'est jamais un problème. Si on comprend ça, le reste devient plus clair.
Dans quel sens ? Donc, expliquez-moi.
Dans le sens où la résistance, il faut la prendre comme une information. Donc, quand on résiste, qu'on soit seul ou qu'on soit face à quelqu'un qui résiste à quelque chose qu'on lui propose ou à un changement qu'on lui impose ou qu'on lui inculque, c'est pas qu'il refuse ou c'est pas qu'on refuse ou c'est pas qu'on n'arrive pas, mais c'est que on est en train de couver ou on est en train de protéger quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Et donc du coup, cette résistance-là, il ne faut pas la casser. Donc par exemple, faut pas chercher à trouver, à sortir de cette résistance, mais plutôt à la comprendre, à l'éclairer, à éclairer de quoi on a besoin réellement pour avancer et pour dénouer un petit peu tous ces obstacles et ces lacunes qu'on est en train de rencontrer. Et une fois qu'on fait ça, ça devient vraiment naturel et on adopte le changement naturellement et une fois qu'on aura compris pourquoi, encore une fois, si je reviens aux trois niveaux, on revient à comprendre le pourquoi, on finit par s'engager et on finit par s'approprier.
Mais en fait, vous avez vraiment une posture de coach hein, dans ce processus.
Non, vraiment pas. C'est un peu sur le tas parce que en fait, la conduite du changement, pour rien vous cacher, bah, c'est c'était pas du tout mon domaine d'expertise. Mmh. Je suis ingénieure mécanique de formation. Vraiment, ça, je l'ai appris un peu sur le tas. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais quand on comprend l'humain et quand on comprend de quoi on a besoin et quand on comprend que pour réussir une transformation quelconque et quel que soit le domaine, ça devient naturel qu'il faut avoir de l'empathie pour l'autre et comprendre de quoi il a besoin. Et après, le reste, ça reste des expertises pointues, ça reste des choses un peu naturelles qui vont découler une fois qu'on se met vraiment dans la peau de la personne et qu'on est très empathique envers elle.
Alors, comment l'ingénieur en mécanique s'est-elle transformée, justement, à opérer ce change dans la conduite du changement, en fait, et est devenue une experte?
En fait, mon parcours en conduite du changement a débuté d'une manière organique, comme j'ai précisé tout à l'heure. Donc, j'ai commencé en tant que change leader dans l'automobile. Je travaillais dans l'aéronautique également, etc. Et le vrai déclic, c'était quand j'ai travaillé en tant que change leader sur des produits en production. Donc, je gérais le change dans un produit technique spécifique, etc. Ensuite, j'ai intégré le monde du conseil où j'ai travaillé dans le secteur public français principalement. Et du coup, naturellement, j'étais en train d'orchestrer des feuilles de route, de faire un peu le métier de pilotage et de PMO. Et du coup, c'était toujours la gestion de projet, gestion de portefeuille projet, gestion de feuilles de route un peu complexes, sans forcément avoir une expertise parce que ça n'avait rien à voir avec la mécanique. Mmh. C'était juste c'était du bon sens. Et du coup, naturellement, comme j'ai continué et poursuivi ma carrière dans la gestion de projet, ben aujourd'hui, je suis dans le secteur bancaire, donc encore plus rien à voir avec la mécanique. La conduite du changement est venue vraiment naturellement parce qu'on ne peut pas dissocier les projets de transformation, quel que soit leur domaine, encore une fois, que ce soit la mécanique, la finance ou l'industrie, on ne peut pas les dissocier du change. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte déjà que je faisais du change naturellement. Et c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser à la conduite du changement, à poser un cadre de conduite du changement. Parce que quand on travaille dans des organisations qui sont d'une certaine taille importante, donc plus l'organisation elle est importante, plus les processus deviennent complexes et plus on doit gérer la conduite du changement d'une manière homogène, histoire de raconter un narratif et avoir ce storytelling entre les projets qui est commun pour répondre à la vision, à une vision qui est un peu plus grande d'un grand groupe. Et du coup, finalement, on revient à l'étape 1 qui est vraiment de donner un sens à tout ça, tout en étant empathique avec les gens qui vont recevoir ces projets-là, qui vont les consommer et qui vont faire de ces projets-là une réussite. Mmh.
Mais alors, au-delà finalement de tout ce que vous avez développé sur le terrain, appris vous-même sur le terrain, dans votre discours, je sens cette incarnation de la posture. Est-ce que c'est simplement l'expérience ou bien vous avez aussi choisi de vous faire accompagner, de vous intéresser académiquement à cette notion du change ?
En fait, le fait de s'intéresser académiquement au change, ça vient nous rassurer, ça vient nous aider à mieux structurer nos idées, ça vient un peu nous acculturer aux dernières tendances en termes de change, ça vient aussi corriger ou rectifier certaines choses qu'on a vécues par le passé et finalement se rendre compte qu'on aurait pu les faire autrement. Surtout si on a témoigné à des projets qui n'ont pas forcément été bien adoptés ou bien réussis. Mais si j'ai un avis à apporter là-dessus par rapport au cadre académique, le plus important, c'est le vécu terrain et c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire déjà, qu'est-ce qu'on est en train de mener comme projet et pourquoi on est en train de les mener. Donc, le plus important, c'est de vivre ce que le terrain vit et ce que les personnes avec qui on est en train de travailler ou avec qui on est en train de vivre, encore une fois, sur le côté personnel et se mettre dans leur peau. Donc, en résumé, si le vécu ou bien le change, ça prend pour moi, principalement sur le tas, sur les expériences, les vécus, et puis les formations académiques, les certifications, les séminaires, etc. C'est important pour rester à l'affût des techniques de change, de ce qui se fait dans des modèles organisationnels ou dans d'autres domaines, et s'en inspirer pour pouvoir les appliquer ou les tester. Mais c'est pas une science, le change n'est pas une science
C'est
exacte. On
exact,
est
ouais.
obligé de, voilà, on est obligé de s'adapter et de vraiment comprendre les besoins dans l'écosystème ou bien dans l'environnement dans lequel on opère.
Alors, pour finir, Shema, justement, quand on vous parle de leadership féminin, est-ce que ça vous embête quand on rajoute le genre au leadership?
Oui et non. Malheureusement, c'est la nature, enfin, c'est la société dans laquelle on a grandi, fait qu'on distingue un leadership d'un leadership féminin. Et d'ailleurs, dans la dernière rencontre, quand on s'est rencontré dans le cadre de Announcy avec Trusted Advisor, je me suis faite cette réflexion, c'est que c'était dommage qu'on était, enfin, je trouvais que c'était dommage qu'on était qu'entre femmes pour célébrer la réussite des femmes, parce qu'une réussite reste réussite tout court, qu'elle
Oui,
soit
oui.
féminine ou masculine. Et ce type d'initiative, des fois, ça inspire les autres femmes, mais ça crée aussi des frustrations de part et d'autre, de dire, ah oui, on ne peut pas juste être leader, mais en fait, on rajoute une note de complexité de leadership. C'est que en plus de la qu'on soit leader, on est leader féminin.
Oui.
Et c'est plus dans ce sens-là. Après, quand je dis non, c'est que parce que la nature des choses fait qu'on est dans une société où le leadership prédominant, c'est un leadership qui n'est pas féminin. Donc du coup, on est obligé de créer cet engouement autour du concept pour mettre en valeur encore plus, pour embarquer les femmes qui ont beaucoup de potentiel et qui n'ont pas encore exploré pour une raison ou une autre, et les motiver, les inspirer au cas où elles pensent qu'elles ne peuvent pas être leader et féminin et féminine en même temps.
En même temps,
Voilà.
par rapport à la conduite du changement, quand il s'agit justement d'opérer des changements qui vont finalement aussi toucher la qualité de vie, par ricochet des personnes qui travaillent dans un espace particulier, dans une entreprise, dans une boîte, etc. Parce que c'est les sortir de leur zone de confort, leur demander de s'adapter, bref, tous ces changements-là qui vont impacter. On dit qu'en général, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux émotions des autres, beaucoup plus empathiques que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est compliqué parfois d'opérer ces changements? Ou bien, quand on est dans ce genre de job, en fait, on endosse une armure masculine?
En fait, de nature, les femmes, elles sont plus empathiques que les hommes. Et donc, même dans la conduite du changement, pour être transparente avec vous, moi, je l'ai remarqué avec des collègues, entre les femmes et les hommes, il y a une compréhension qui est, ou bien une empathie, un niveau d'empathie qui n'est
Le
pas
même.
similaire à 100%, voilà. Donc les femmes ont en général plus d'empathie, elles vont essayer de comprendre l'autre un peu plus, etc. Mais à mon avis, c'est pas une règle générale, parce qu'il y a il y a des hommes qui sont tout autant empathiques.
Ouais.
La question, elle se pose pas. Surtout dans le change, il y a des experts, dès qu'on est dedans, dès qu'on est dans ce domaine de change, l'empathie, ça devient une brique essentielle. Et honnêtement, j'ai rarement vu une personne qui n'est pas empathique faire du change. Ça ne matche pas. Donc, c'est même la conduite du changement, c'est pas un métier qu'on apprend par des formations qui sont purement académiques. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de spécialité change dans les écoles, après des études supérieures, et tout
Absolument,
ça, ça
ouais.
vient après. Donc ça vient nourrir, ça vient renforcer, ça vient dans le cadre d'un upskilling de change. Mais une personne qui n'est pas empathique, c'est incompatible avec une personne qui fait de la conduite du changement. Et la preuve, c'est que beaucoup de boîtes, il y a plein d'anecdotes et plein d'exemples internationaux qui prouvent que dès qu'on manque d'empathie et qu'on manque d'écoute, le change finit par ne pas s'opérer. On fait face à des échecs inévitables.
En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Shaima Najim. Merci infiniment pour cet insight.
Merci
vraiment.
Vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.